Aujourd'hui, le goût des adolescents.
Être et savoir. Louise Touret.
Demain commence la 29e semaine annuelle du goût. C'est l'occasion dans les écoles de parler aux enfants de l'alimentation, des bonnes choses, des recettes et de la saisonnalité des produits. Mais comment mangent ces enfants à partir du moment où ils prennent leur autonomie? Quand ils sont collégiens, quand ils deviennent de jeunes adultes, la fameuse génération des millennials. Plus prosaïquement, pourquoi tant d'adolescents de tant de milieux différents adorent par exemple le kebab? C'est une question qu'on se posera. Nous verrons aussi avec nos invités comment ce qui est transmis, ce qui a été appris les plus jeunes années, se mêle à un jeu d'influence exercé par les pères, via aujourd'hui les réseaux sociaux par exemple, au mode du temps et aux normes qui circulent, le tout faisant de l'adolescent et du jeune adulte des mangeurs à part, des jeunes gens qui affirment aussi leur identité par leur choix alimentaire. Retrouver la leçon de choses en fin d'émission où l'apprentissage se raconte comme une histoire personnelle. Aujourd'hui, avec un chef cuisinier, Bruno Doucet, qui va parler de son enfance de chasseur.
Vous marchez avec votre chien devant et quand votre chien se met à l'arrêt ou lève un gibier, c'est le moment de savoir si on le prélève ou pas. Là, c'était vraiment une chasse au cul levé, donc au cul levé, c'est-à-dire que vous marchez devant. On chasse comme ça la bécasse, on peut chasser comme ça le lièvre ou le perdreau, mais c'est vraiment très sympa.
Très sympa, enfin c'est ce qu'on verra en fin d'émission et c'est la leçon de choses de Sophie Bobert.
Cent secondes pour faire cuire une tranche de steak haché congelé. 55 secondes pour toaster et saucer, une sonnerie rythmant chaque opération. Quelques gestes pour la salade, les oignons, les cornichons, le fromage. En 2 minutes exactement, le client est servi.
Mais vous préférez pas manger un petit repas chaud ailleurs, tranquillement?
Non, parce que dans les cafés c'est très cher, c'est long. Ici, c'est plus complet, c'est plus sympa.
Pourquoi plus sympa?
Bon, un restaurant, un café, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Ici, ça c'est tranquille. On est indépendant, on n'a pas de service à donner, on n'est pas obligé de crier après le garçon. Une fois qu'on est servi, tout du moins, on mange.
Et c'est une archive qui date de 1979. McDonald's est un des symboles de l'alimentation des jeunes, et je mets de gros guillemets, un symbole peut-être un petit peu ancien déjà. On se souvient des scènes du film La Boum en 1980. On voyait que c'était un très cool de manger dans un McDonald's pour les jeunes adolescentes dont le film raconte l'histoire. Dans le film LOL aussi, il y a un McDonald's. Aujourd'hui, il y a bien d'autres modes alimentaires qui se répandent. On va en parler par exemple avec vous, Clément Romieux, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes encore étudiant?
Je suis encore étudiant, je suis en master 1.
Oui, à Sciences Po, à Saint-Germain-en-Laye, et vous avez publié un très intéressant petit mémoire sur les restaurants kebab en France.
C'est exact.
Ouais. Un mémoire que vous avez publié dans le cadre d'un échange avec l'université de Vienne.
De Vienne en Autriche, ouais.
Voilà. Et dans ce mémoire, vous appuyez sur l'aspect très français des kebabs. Si on les compare, par exemple, à ce qui se passe dans les pays germaniques, qu'est-ce qui est si français dans ces restaurants?
Ce qui est si français, c'est qu'en fait, à la différence en Allemagne, quand on mange un grec, un donneur, du coup, ils appellent ça là-bas. C'est-à-dire qu'on a, il y a une espèce d'échoppe assez rudimentaire et on mange debout dans la rue, on parle pas vraiment aux gens. En France, c'est complètement différent. C'est l'un des seuls exemples dans le monde où ça se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est un vrai restaurant avec une salle, voire une terrasse, avec des tables, des chaises. Et on s'assoit avec un plateau, avec vraiment le gros sandwich qui est plus gros et avec des frites. Donc ça invite à rester plus longtemps et à vraiment s'asseoir avec des gens, en fait, plutôt qu'en Autriche, en Allemagne, où là, c'est un truc qu'on mange rapidement parce qu'on n'a pas le temps de manger, en fait.
C'est la fameuse commensalité si française, ça doit vous intéresser, vous qui êtes anthropologue, Véronique Pardo.
Oui, bonjour, effectivement ça nous intéresse et puis surtout ça nous a beaucoup intéressé dans le cadre d'Alimado, qui a été un projet de recherche soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche et avec 2 labos CNRS en Alsace et en Provence-Alpes Côte d'Azur. Et effectivement, on a bien vu que la commensalité était aussi au cœur des pratiques adolescentes, peut-être même au-dessus de tout, avant la santé, avant tout, 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 et que ces adolescents composaient des alimentations très diverses, où ils mêlaient des alimentations transmises, celles qu'ils avaient apprises, celles qu'ils voulaient se donner. On appelle ça, en langage plus barbare, des alimentations performantes ou une identité performative, c'est-à-dire qu'en fait, on a envie de manger pour être quelqu'un quelque part, avec ses pairs. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à ça dans le cadre de ce programme de recherche.
J'ajoute que vous êtes responsable de l'OCHA, Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires. C'est aussi financé par l'industrie agroalimentaire, parce que aujourd'hui, c'est comme ça que la recherche sur l'alimentation se finance. Véronique Pardot, ces habitudes des adolescents, est-ce qu'elles sont bien étudiées? Parce que cette étude, elle remonte quand même à 2011, et il n'y a pas beaucoup de travaux depuis.
Non, tout à fait. Juste en retour, l'OCHA n'est pas financé par l'industrie agroalimentaire, mais par l'interprofession laitière. C'est pas tout à fait la même chose. Et notre objectif, en fait, c'est de ne pas travailler justement sur une famille d'aliments en particulier, mais ce qui fait l'alimentation en général.
Voilà, mais il fallait le préciser. Donc, pour être bien tout à fait clair. Et sur le peu de recherche sur la question.
Effectivement, alors, peu de recherche, beaucoup plus que quand nous, on a fait Alimado. On est un petit peu apparu en fait. En plus, on a proposé une recherche en anthropologie participante. Ils se sont dit, mais vraiment, hein, y compris du côté de l'Agence nationale de la recherche, ils nous ont un peu pris pour des anthropologues perdus qui avaient cru que la France était une seconde jungle, et ils nous ont demandé même si nos méthodes étaient attestées et sûres. Et donc en fait, on est apparu un petit peu avec un sujet qui dérangeait, avec des méthodes un petit peu décalées et qui ont porté leurs fruits, puisqu'en fait, on a voulu aborder ce sujet parce qu'il nous semblait que finalement en France, on s'occupe beaucoup, et dans toutes les disciplines, l'alimentation des tout-petits, des bébés, des enfants, de l'alimentation des seniors, de plus en plus des adultes, et que les ados étaient un petit peu, finalement, ceux sur lesquels il y avait le plus, finalement, de lieux communs, et pas beaucoup de vérités scientifiques, ou en tous les cas, d'observations scientifiques. Et c'est pour ça qu'on est allé là-dessus.
Et on va en énoncer certaines de ces observations, de ces conclusions de recherche, de ces hypothèses aussi. Avec vous aussi, Dominique Adèle Cassuto, vous êtes nutritionniste.
Voilà, je suis nutritionniste et je suis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où je travaille, enfin je m'occupe que de la tranche d'âge 15-25 ans. Depuis très longtemps, avant même je m'en occupais à l'hôpital, dans même des plus petits, et à mon cabinet, donc je vois aussi la nutrition de 7 à 77 ans. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi une vision longitudinale aussi de l'alimentation. Et quand j'ai lu tout le dossier de Alimado, je me suis dit qu'il fallait absolument le divulguer de façon dans mon cabinet déjà. C'est-à-dire que si, quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas les enseigner ou les aider. Donc, du coup, ce livre qui est un abécédaire, donc de A à Z, ça se lit pas.
Qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation des ados? Et c'est publié chez Odile Jacob en 2013.
C'est justement pas à lire de A à Z, c'est à piocher. Dans la salle d'attente, on le voit bien, puis mes petits patients qui l'achètent, les parents, il y a des petites astuces. Alors, j'ai mêlé aussi des idées nutritionnelles, et un peu j'ai refait le point aussi sur ce que c'est qu'un féculent, un légume, etc. Donc ça c'est très important. Mais aussi, j'ai essayé de distiller tout ce que ils avaient trouvé dans Alimado.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Véronique Pardot? On s'intéresse à ce que mangent tout petits, la semaine du goût, ça vise plutôt les écoles, les scolaires avant le collège, et puis après on en parle peut-être plus sous l'angle de la pathologie.
Alors, dans les écoles, pourquoi les classes de goût sont dans une tranche d'âge 8-10? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture au niveau du goût. En fait, de zéro, alors, les tout petits, c'est les parents, c'est le maternage, c'est la diversification, tout ça, c'est des choses, d'ailleurs ça change tout le temps d'ailleurs, mais on ne sait pas pourquoi.
Les conseils
ça change tout le temps. Bref, après il y a ce qu'on appelle le goût enfantin. Le goût enfantin, c'est quelque chose d'assez fixé. C'est-à-dire que les enfants, finalement, ils sont rassurés avec les pâtes, les frites, le steak haché, c'est assez simple. Alors, les parents, ils sont là. Les parents, l'école, tout ça est là pour ouvrir. Mais on sait que la tranche de tir, là, c'est 8-12 ans. Parce que c'est vraiment là où les enfants sont... La néophobie alimentaire, bon ça éventuellement je pourrais l'expliquer, qui est fixée jusqu'à 7-8 ans, va s'arrêter. Et puis donc ils sont très curieux. On sait bien qu'à 8-9-10 ans, les enfants sont très curieux, ils sont pas encore dans l'autonomisation, ils sont pas encore dans le rejet des messages nutritionnels, ils sont pas encore dans le rejet des messages de tout ce qui est le maternage et tout ce qui est parent. Donc du coup, c'est pour ça que les classes de goût sont entre 8 et 10 ans, 10, 11 ans. Donc c'est pour ça que c'est CM1, CM2, c'est 6e. Tout ça c'est ça.
Donc voilà. Le goût change avec l'âge.
Ah complètement.
C'est psychologique ou c'est aussi biologique? Vous dites il y a plus de néophobie alimentaire au bout d'un moment parce que voilà, on arrête de refuser tout ce qu'on connaît pas, mais est-ce que aussi le fait à l'adolescence de vouloir manger par exemple plus gras ou plus sucré, c'est biologique ou c'est psychologique, ou ça correspond à l'influence des
pères?
C'est
un peu les deux. Je pense que il y a probablement des histoires d'hormones, probablement des histoires aussi. Vous savez ce qu'on dit d'un garçon, vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Hein, je veux dire, ça mange beaucoup. Donc du coup, les adolescents, les garçons, ça mange quoi. Je veux dire, donc les parents des fois ont peur de cette alimentation, de tout d'un coup ils dévorent. Alors ils disent, ma fille est boulimique parce qu'elle prend un gros goûter, mais les enfants à la puberté, ils ont faim. Donc, voyez ce que je veux dire. Donc, il faut expliquer aussi ça. Il y a aussi, et il y a en même temps la psychologie, et puis il y a les modifications corporelles. Là, par exemple, dans Alimado, il y a plein de choses sur les odeurs. Ça, c'est extraordinaire. Les adolescents n'aiment pas les aliments qui puent. Mais ils n'aiment pas les aliments qui puent parce que, justement, ils ont eux-mêmes des sensations odorantes qui arrivent avec la puberté, etc. Donc, moins il y a des choses qui puent autour, enfin, c'est pour ça qu'ils restent des heures dans la glace, qu'ils se parfument. Enfin, tout ça va avec. Donc, ça, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'a passionnée dans Alimado, et c'est pour ça que j'ai voulu le vulgariser à ma façon, c'est pour expliquer aux parents des choses qu'ils ne comprennent pas ou qui n'ont pas vraiment compris pourquoi ils les aiment les légumes croquants plutôt que cuits, enfin des choses comme ça. Et ça passe. Et en consultation, ça permet de calmer le jeu quand il y a des conflits autour de l'alimentation.
Alors Alimado, c'est ce fameux rapport auquel vous avez participé, que vous avez co-dirigé, Véronique Pardo. Cette dimension collective de l'alimentation, collective sans adulte, elle est extrêmement importante. Et pourtant, on sait que l'adolescence, eh bien, c'est un âge relativement récent au regard de l'histoire, puisque la jeunesse au 19e siècle, ça n'existait pas ou pas comme ça et pas à ces âges-là.
Oui, alors, et justement, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'en fait on se cherche encore, c'est un âge nouveau quelque part. Et je pense que ça explique ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a assez peu de recherches sur le sujet. Alors l'aspect collectif, il est partout, il est aussi dans ce projet. Vous l'avez pas dit, donc quand même je veux dire qu'on a coordonné ce projet avec Annie Hubert, qui est décédée avant la fin du projet et à qui on doit beaucoup sur ce projet, et avec bien évidemment Nicoletta Diasio, avec qui nous avons continué toute la... parce qu'il y a eu deux volets, la vulgarisation mais aussi toute la publication scientifique qui a suivi et qui n'est pas dans le rapport que vous avez là. Et en fait, nous, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant justement, c'est que les adolescents, ils sont, entre guillemets, stéréotypés dans un regard qui est très adultocentré finalement. Et ces stéréotypes, eux-mêmes, les véhiculent. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a commencé la recherche, parce qu'on a parlé, on a rencontré plus de 1500 adolescents. Et on les a pas rencontrés une fois, on les a suivis, on a été invités à des anniversaires, on a été invités dans les familles, on les a suivis partout, au collège, chez eux, chez les grands-parents, enfin. Et en fait, ce qu'on a vu déjà, c'est que cet aspect collectif, il est collectif et pluriel partout. C'est-à-dire qu'on peut pas dire un adolescent, il y en a des, et qu'un adolescent, il peut avoir plein de façons de se nourrir en fonction de la situation des gens avec qui il est, etc. Et donc, forcément, comme on apporte de la complexité, ça plaît pas trop, et ça plaît pas trop à personne, parce que forcément, on n'a pas dit, ben voilà, l'adolescent français entre 2009 et machin se nourrit comme ça. Non, d'abord, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'adolescent, mais il y en a plein. Et ce qu'on a montré aussi, qui je crois était extrêmement intéressant, c'est que il se construisait vraiment quelque chose à l'adolescence, et il fallait absolument qu'on sorte de l'idée que les adolescents étaient simplement des écervelés, qui n'avaient aucune réflexivité sur leur alimentation, qui n'avaient pas conscience des questions santé liées aux aliments, pas du tout. Il y avait à cette époque-là surtout un gros ras-le-bol sur les recommandations nutritionnelles, ou sur les injonctions plutôt nutritionnelles. Et c'est pas contre Dominique, au contraire là-dessus, parce qu'on est
vous
très en phase.
Des 5 fruits et légumes par jour, par exemple.
Ça. Alors ça, c'était extrêmement intéressant. Parce que sur les injonctions, ils avaient tous des interprétations personnelles, mais n'empêche qu'ils les avaient entendues et ils les avaient intégrées. Et donc, en fait, se développait aussi plein de choses autour de l'alimentation des adolescents. C'était de la culpabilité, du « est-ce qu'on mange bien ?» Et d'ailleurs, eux-mêmes, au début, parce qu'ils nous ont dit « mais en fait, si vous venez nous interroger sur la façon dont on mange, c'est parce qu'en fait, vous vous dites qu'on mange mal. » Et ça a été très dur à déconstruire parce qu'eux-mêmes se plaçaient dans ce regard de la société vers eux. Et donc, ils nous disaient « Oui, oui, on sait, on mange mal. Non, mais en fait, nous, on est anthropologues, on est sociologues. En fait, on vient pas vous juger. On vient pas savoir si vous mangez bien vos 5 fruits et légumes par jour. En fait, on veut savoir ce que vous mangez vraiment, ce qui vous plaît, ce qui vous rassure. » Ce qui vous plaît pas, ce qui vous dégoûte. Alors après, on a eu des catégories. Alors et bien évidemment, sur les matières, sur la façon, sur le croustillant versus le mou, par exemple, ça transcendait toutes les cultures adolescentes. C'est-à-dire qu'ils étaient plus attirés vers quelque chose de croquant, de croustillant, que vers mou et bouilli. En gros, entre les nuggets et les endives bouillies. Et c'est pas parce que c'est des endives et des nuggets, mais c'est parce qu'il y a un contact particulier. Et donc tout ça est sorti de ce projet. Avec beaucoup finalement de pluralisme.
Clément Romieux.
Ouais, alors par rapport à ce que vous dites là sur le croustillant et le mou, je pense que ça tend à être mis en question avec la popularité du tacos en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Si si.
Et c'est parce que en fait,
qui est très
c'est,
à la mode.
Qui est très à la mode. Alors moins que le grec, mais ça vient à la mode quand même. Et pour le coup, ça c'est vraiment un truc mou quoi. Enfin c'est en fait c'est des il y a de la sauce et des frites à l'intérieur du truc et ça rend croustillant. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas du tout dans ce que vous avez regardé?
Maria Del Cassuto, peut-être.
Donc du coup
sur les consistances et puis les modes.
Ouais, non, alors je pense que là c'était plutôt autour des légumes en fait. Bon là c'est pas des légumes donc
c'est, non, c'est pas vraiment des légumes. Non.
Donc en fait ce qui était intéressant, mais vous voyez quand des études comme ça sociologiques sortent, vous voyez comment pour moi en tant que nutritionniste comme c'est important de dire les parents qui me disent ils aiment pas les légumes, je dis ben faites plutôt des crudités pendant un moment et vous allez voir et tout que ça change tout. Ça et l'enfant il tout d'un coup, c'est-à-dire que plus les nutritionnistes ou les diététiciennes qui s'intéressent aux adolescents, plus ils connaissent les gens en face. Bon, c'est pareil pour tous les âges. Hein, plus ils arrivent à adhérer. Et bon, c'est pareil aussi pour les réseaux sociaux. Si moi je pose pas la question, qu'est-ce que tu postes, qu'est-ce que tu regardes, est-ce que tu regardes machine ou machin sur Instagram, etc. Comme moi, je m'intéresse à ça, je m'intéresse à ce qu'ils font. Forcément, j'adhère et du coup, je rentre un petit peu dans leur imaginaire et ça les aide. Donc c'est pour ça que ça bouge tout le temps, qu'il faut toujours être là. Par exemple, ceux que Véronique a étudié, c'est plus à mon avis plus les mêmes maintenant. Enfin, c'est-à-dire dans la génération qui arrive.
Et, ça change peut-être. Avec les réseaux sociaux, Clément Romieux, je vous ai vu réagir quand on a prononcé le mot stéréotype.
Ouais,
et vous
sûr.
Avez parlé des tacos parce qu'il y a de vrais modes qui se diffusent de plus en plus vite. On peut aussi parler, tiens, on veut pas passer au sucré, avec la mode du Capri Sun. Alors moi, je suis un peu en retard, mais ça fait quelques années que cette boisson ultra sucré se vend de mieux en mieux. Il y a aussi la question du prix, parce que ça coûte 50 centimes un Capri Sun.
Capri Sun, oui. Par rapport à des nouvelles habitudes stéréotypées, pour parler de stéréotypes, en général, les gens qui vont critiquer le grec ou quoi, ils ont jamais vu un kebab en vrai, je pense. Donc, vous leur dites sauce algérienne, ils vont pas savoir ce que c'est. Enfin bref, donc il y a beaucoup. Enfin comment dire.
Mais dites à nos auditeurs ce que c'est la sauce algérienne.
Alors je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est très bon. Donc prenez ça plutôt que de prendre du ketchup.
Je
pense qu'il y a de la rissa dedans, ouais. Et par rapport aux tacos, en fait, c'est ce que moi j'ai observé, ce dont je n'en parle pas dans mon mémoire, mais c'est une nouvelle mode un peu du fast food halal, en fait. Donc, si vous allez sur Uber Eats ou sur Deliveroo, vous allez dans la catégorie halal, c'est que des trucs de daleux, vraiment des trucs énormes, ultra gras, machin.
De daleux.
Pardon, désolé.
Des gens qui ont la dalle, oui. D'accord.
Pas forcément, en fait, parce que ce que je montre aussi, c'est que les filles qui mangent du fast food ont tout autant d'enthousiasme à en manger. Il y a moins de fréquence de filles qui mangent régulièrement du kebab à cause de plein de raisons de socialisation. On leur apprend à faire plus attention à ce qu'elles mangent, etc.
Mais elles ont moins faim, de toutes les façons.
Oh bah il y a des filles
nutritionnistes
non c'est vrai bah, je connais des filles elles s'envoient des trois viandes mais
alors ce qui est intéressant c'est
que
des tacos trois viandes
ce que Clément dit là on l'avait vu aussi, mais ce qui est intéressant c'est pas de regarder en pratique genrée, en mettant les garçons et les filles d'un côté, mais de les voir en interaction. Et ce qui est génial justement dans les kebabs, etc., c'est que on a peut-être un côté un peu genré, style les garçons prendront plus un kebab un peu gras, etc., et les filles des salades, sauf que c'est pas vrai.
Pas du tout,
c'est pas vrai. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Les filles vont manger des frites dans l'assiette d'à côté, les garçons... Donc il y a aussi ça dans ce genre de restaurant, c'est que chacun ne mange pas que ce qu'il y a dans son plateau.
Que vous les décrivez mangeant tout près les uns des autres, ils ont
exactement.
Les corps sont
beaucoup plus rapprochés. Proximité, et ça c'est hyper intéressant.
Mais ça c'est très important.
Dominique Adèle Cassuto.
C'est très important de voir ça et de pas les culpabiliser à vivre comme ça aussi. C'est-à-dire que je pense, moi ce que j'enseigne à mes petites patientes quand elles ont des problèmes de poids ou quand les parents me les amènent, même si elles n'ont pas de problème de poids, donc c'est-à-dire que quand j'essaye de voir, c'est que on a le droit de manger plus que de raison. Mais après, on peut aussi se dire, ce soir, j'ai pas faim, je mange moins, quoi. Donc, mais ça, c'est pas encore acté dans la tête des parents. Oh, tu manges pas, pourquoi, machin. Donc, c'est important.
Est-ce que vous pensez que la manière dont on a parlé des pathologies, anorexie, boulimie alimentaire, comme étant spécifique aux adolescentes, ce sont des sujets qui ont été beaucoup médiatisés, a inquiété assez massivement les parents, les familles?
Bien sûr. Ça peut m'arriver d'avoir un parent ou une maman qui m'amène une petite fille qui a pris un peu de poids parce que c'est normal au moment de la puberté de changer de corde. Il y a un moment où on prend du poids puis après ça se restabilise. Et aussi de voir qu'elle apprend des gros goûters et de me dire ma fille est boulimique. Il y a des vulgarisations des mots. Les mots est un mot. Donc c'est à nous, justement, professionnels de la santé, de recadrer, de voir si par rapport au poids, s'il y a eu un décrochage, etc. Ou si l'enfant reste dans son, comme on dit, dans son couloir, ou s'il y a une vraie pathologie qui se met en route. De même type, l'anorexie aussi. C'est-à-dire, à cet âge-là, les adolescents vont être extrêmes, ils vont s'essayer. Alors, un coup, ils vont manger beaucoup, parce qu'ils ont très faim ou parce qu'ils sont en groupe, puis un coup, ils vont dire, je mange plus rien, parce que c'est aussi une façon, quand on décrit l'adolescence, c'est aussi un moment où... tout change, il y a plus de prise sur rien, donc si on a une prise sur son corps, tant mieux, donc on va s'essayer à pas manger pendant quelques jours, puis après on va voir qu'on peut pas, et puis celle qui a une structure un peu compliquée, qui a peut-être une structure qui pourrait aller vers l'anorexie, elle va continuer à maîtriser. Au moins, ça, je le maîtrise et le reste, je ne maîtrise pas.
Mais l'inquiétude alimentaire, elle circule aussi du côté des adultes.
Bien sûr. Et puis, il y a aussi maintenant, alors peut-être qu'on va en parler aussi, c'est les modes des régimes sans, qui sont très, très...
Alors sans gluten.
Sans viande, sans gluten, sans lait. Moi, je dis souvent, parce que celles qui ont 19-20 ans, elles sont sans viande, sans gluten, sans lait, mais elles ne sont pas sans alcool, hein. Voilà. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on appelle l'alcorexie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elles, pour ne pas prendre de poids, elles ne mangent plus rien, mais elles boivent quand même le verre de vin blanc le soir ou la bière avec les copines à 17h ou à 19h. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant, ces régimes sans, parce que ça déstabilise beaucoup de choses. Et moi, elles viennent en disant, je ne comprends pas, je ne mange plus rien, mais je prends du poids. Mais quand vous interrogez bien, il y a quand même de l'alcool. Ça, c'est quand même l'alcool mondain, on va dire, mais c'est quand même de l'alcool tous les soirs. Donc ça, c'est quand même un truc important.
Véronique,
oui, je voulais juste revenir sur deux choses. D'abord sur la puberté. Ce qu'on avait observé, nous, alors, c'est pas sur les adolescents eux-mêmes, mais sur le comportement des parents vis-à-vis des adolescents. Ce qu'on a vu et qui, effectivement, mes données datent un peu, et c'est pour ça que je vous avais dit, je veux pas venir parce que je retravaille dessus à partir de l'an prochain et je veux les adapter.
Et vous ressentez le besoin de travailler dessus.
Je ressentais le besoin parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont encore valables parce qu'on avait fait quelque chose aussi d'avec pas mal d'hypothèses qui en fait se vérifie un peu, mais je pense que et les réseaux sociaux et la façon plus ouverte vers le monde qui s'est vraiment développée a changé pas mal de données sur les ados. Mais je voulais revenir sur la puberté parce que ça, il me semble que ça reste, notamment dans le rapport aux parents avec leurs ados à ce moment-là. Je parlais de culpabilité tout à l'heure au niveau de l'alimentation et tu as parlé de rétention, tu as parlé de surpoids, Dominique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que là, c'est très genré. C'est-à-dire que les parents vont restreindre leur adolescente fille là où ils ne restreindront pas leur adolescent garçon. Et alors ça, c'est encore plus visible parce qu'on a travaillé avec des fratries.
Mais même à la maison, d'ailleurs.
Oui, même à la maison. Je parle de la maison. Je parle même de la maison.
C'est mange.
Et c'est-à-dire qu'en fait, on va restreindre l'adolescente fille parce qu'il y a aussi ce modèle social, ce canon esthétique d'une minceur, voire aujourd'hui d'une maigreur, parce que tu as parlé de l'obésité et du surpoids, mais on pourrait parler du sous-poids qui pose aussi un vrai souci. Et en fait, et cette restriction, elle est vécue aussi comme une rétention, comme une culpabilité pour les adolescentes qui, elles, on leur interdit plus des aliments gras, etc., que leurs frères. Et en fait, ça, c'était intéressant de discuter avec les fratries, parce que souvent, les parents, en fait, s'en apercevaient parce qu'on leur posait la question dessus. Et c'était presque instinctif de dire « oui, mais c'est une fille, donc elle doit manger moins », alors que lui, c'est un garçon, donc il va être plus sportif, donc il faut qu'il ait de l'énergie.
Donc on se définit soi-même, adolescent, par ce qu'on mange,
Exactement. Mais on vous définit et on vous assigne.
Tout à fait.
Simplement, par rapport à cette problématique de genre, justement, ce que je voulais revenir sur un truc, c'est-à-dire que je parlais d'enthousiasme, mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est une observation sur environ 500 étudiants de Sciences Po dans toute la France, dont des gens d'Aix, d'ailleurs. Et en fait, les femmes, Aix-en-Provence, ouais, en mangent moins, mais quand elles en mangent, les pratiques, elles sont exactement pareilles, en fait. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'intérieur, c'est qu'une fois dedans, une fois qu'on est dans le grec, c'est un générateur de comportements homogènes qui est, je pense, un cas unique. En fait, je pense que ça existe nulle part ailleurs. Des comportements qui sont aussi similaires, c'est-à-dire qu'elles prennent les mêmes sauces, les mêmes sandwichs, elles prennent vraiment le même truc, quoi.
Alors juste un point qui est important, c'est que, enfin, j'ai vu le travail de Clément qui est vraiment passionnant, et en fait, on ne parle pas des mêmes ados. Parce que je pense qu'il faut le dire, on ne
parle pas des différences d'époque.
Différences d'âge, différences d'époque, mais surtout aussi différences de milieu. Parce que nous, nos ados, c'était des petits ados, enfin des petits ados. On a commencé à 11 ans et en fait, notre tranche d'âge, c'était 11-19 ans. Donc en fait, c'est
17-25 ans.
Donc toi, tu es sur la frange vraiment supérieure qui sont en fait des jeunes adultes. Ouais. C'est Sciences Po.
Ah mais c'était exprès, hein.
Voilà. Donc
c'était exprès pour montrer parce que je ne m'attendais pas à des tels résultats. Je pensais qu'en tant qu'étudiant de Sciences Po, parce que dans la littérature académique avant moi sur le kebab, le grec c'est un truc d'immigré, c'est un truc d'Algériens qui viennent en France et qui mangent des kebabs. Mais là en fait, les populations qui sont en Sciences Po en majorité, je veux pas généraliser, mais
c'est qu'il y a une certaine reproduction sociale.
C'est des gens
qui ne
sont ni issus de l'immigration, ni issus d'une catégorie sociale défavorisée ou précarisée. Voilà, mais ils en mangent énormément. Et ils le mangent selon des pratiques qui sont perçues comme traditionnelles et qui ont été établies par les immigrés avant eux, en fait. Donc
c'est
la population étudiée, c'est exprès en fait.
C'est intéressant de voir comment des modes d'alimentation très populaires se répandent via la jeunesse. Clément Romieux, il y a aussi la dimension du prix, parce que ce serait bizarre de ne pas en parler. Elle est extrêmement importante. Ça permet aussi de manger à l'extérieur pour un prix modique. Vous en parlez, ça, Véronique Pardo?
Oui. Alors, en fait, la dimension du prix et aussi de l'accessibilité, parce qu'encore une fois, je suis désolée de mettre des différenciations comme ça, mais ce qui est important aussi, c'est de voir que on peut pas parler de la même façon d'adolescents urbains, d'adolescents qui vivent dans des zones rurales, des adolescents de 12 ans qui sont pas encore prescripteurs et des adolescents de 19 ans qui vivent leur vie, enfin, qui sont autonomes, soit dans le cadre de cités universitaires ou qui ont commencé à être étudiants. Et le prix, par contre, c'est quand même quelque chose qui est assez transversal, parce que globalement, que ce soit des ados très jeunes en milieu urbain ou des ados plus âgés, etc., globalement, la question de l'argent de poche, elle est quand même essentielle. Et après, il y a des arbitrages qui sont faits. C'est pas un hasard si ma collègue nutritionniste ici présente parle de la sixième comme de l'année des bonbons, parce qu'en fait, c'est l'année où les gamins commencent à avoir de l'argent de poche, parce qu'ils sont tout petits, je dis les gamins, parce que les petits, quand ils rentrent en sixième, ils ont 10 ans, 11 ans. Et en fait, ils commencent à avoir de l'argent de poche. Et quand même, ce qui est intéressant, et pour nous, c'est aussi un déclic, parce qu'après, on retrouve ce geste-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent pour partager. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et là, les petits en sixième, ils achètent des bonbons, bien sûr, parce qu'en plus, les parents ont restreint.
Un euro dans la poche, t'es content, tu retrouves.
Et un grand sac.
C'est un grand interdit.
On a après autre chose, c'est que ce qu'on voit là pour les bonbons, on le voit aussi pour les boissons. C'est-à-dire que nous... selon les zones périphériques à Strasbourg, Marseille, etc., les ados allaient acheter ensemble dans des magasins plutôt à bas prix et ils achetaient des grandes bouteilles de soda plutôt que des canettes et ils les partageaient, etc. Et cette question de partage, pour moi, quels que soient justement les milieux sociaux et les cultures, elle est vraiment au cœur des cultures adolescentes. Après, elle se décline sous pleine forme et donc cette question de partage, forcément, il y a la question de l'accessibilité et du coût.
And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
No, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I don't know. I didn't go on a Burger King.
Et la chanson s'appelle Eating People. Elle est chantée par un groupe qui s'appelle Sons of Raphaël, que je découvre avec vous, chers auditeurs. Peut-être que vous le connaissiez vous. On va parler de pop culture puisqu'on entendait un extrait de film. En fait, c'est très important hein, pour la culture adolescente aussi de se voir. Alors, j'ai parlé de La Boum au début. C'est un très, très vieux film. Aujourd'hui, c'est dans des chansons de rap qu'on
Bien
entend
sûr, ouais.
Clément Romieux, des chanteurs parler... c'est salade tomate oignon Booba, c'est peut-être déjà un peu vieux ça.
C'est ça que je disais culturellement en grec, c'est 6,50 € salade tomate oignon et tout ce qu'il y a culturellement avec, donc la chanson de Booba, salade tomate oignon, Niska qui dit salade tomate oignon mais de la sauce sur les frites dans la chanson Chasse à l'homme, le youtubeur Mohamed Eddy qui fait une vidéo sur le kebab et qui a 1 million de vues tout de suite.
Nous mettrons le lien sur le site de France
Culture. Il est vraiment très drôle.
On voit aussi combien les adolescents sont des cibles de Miguel Del Castillo pour aujourd'hui les marques qui savent que leur appétit est grand et qui ont beaucoup de choses à vendre à ces appétits qui sont aussi très sucrés, qui ont besoin d'énergie et qui cherchent aussi à les influencer.
Oui, probablement. Ça, je suis pas dans l'industrie par rapport à ça, mais c'est vrai que nous, aussi bien les parents que les marques, tout ça, une consommation raisonnée aussi doit pouvoir être mise en place maintenant. Je crois que maintenant, l'industrie agroalimentaire et même l'État, enfin tout le monde, est là pour une consommation raisonnée de tout. Quoi, je veux dire, on n'est pas. Je crois que plus on va interdire de toutes les façons à des adolescents de on va leur dire ça, c'est pas bon, plus la transgression est là.
Bien sûr,
voilà, donc ça c'est vrai que l'imaginaire du kebab, alors c'est vrai que je me suis jamais tellement penchée sur le kebab, donc je suis très intéressée d'entendre ce que vous dites, mais l'imaginaire est pas forcément extraordinaire dans la taille des parents.
L'imaginaire, c'est, tu sais, ils sont là, oui, le kebab c'est gras, ouais, c'est gras, c'est évidemment, enfin c'est pas un brocoli quoi, évidemment que c'est gras. Après bon, si on consomme avec modération, il y a pas de comment
oui,
dire.
C'est ça. Ouais. Ce qui est important, alors ça, on le connaît bien chez les petits, chez les ados, c'est un peu moins étudié, c'est les attitudes parentales vis-à-vis de l'alimentation. On sait qu'une attitude autoritaire, ça marche pas. Une attitude laxiste qui laisse faire tout, ça marche pas non plus en termes de nutrition. Mais par contre, une démocratique, ce qu'on appelle démocratique, c'est d'avoir intégré la règle, mais permettre des transgressions, ça marche très bien. C'est pour tout, c'est pour le sommeil, c'est pour les notes, c'est-à-dire que logiquement, une éducation doit être démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on mange à table. Chez nous, on met le portable dehors à la cuisine. Chez nous, on mange. Mais de temps en temps, on peut manger devant la télé et on va se manger une pizza ou un kebab tous ensemble. L'éducation alimentaire, c'est ça. C'est pas de dire le kebab c'est mauvais, les légumes c'est bien. Enfin bon, en tous les cas, c'est comme ça que j'entends et c'est pour ça que je vois. Alors le problème, c'est vrai que moi, je vois que des patients, des gens qui vont pas très bien, des familles qui vont pas bien, parce que il suffit qu'il y ait un.
Je rappelle que vous êtes nutritionniste.
Oui, je suis nutritionniste. Des gens dont des enfants ou des troubles du comportement alimentaire ou des prises de poids ou des maigreurs, c'est que les parents paniqués, on entend avec des messages dans tous les sens, il faut pas manger de ci. Enfin, les gens sont un peu perdus hein, quand même de nos jours. Il faut pas manger de viande, il faut pas manger de gluten, il faut manger de laitage. Il y avait eu un colloque d'ailleurs à l'OCHA sur les régimes sans. Je suis obligée de recadrer tout le temps, mais ma fille, elle est intolérante au gluten, intolérante au laitage, intolérante à ci. Puis quand les gamins, quand tu l'as seul, ils disent moi à la cantine, je mange du pain, je mange du lait. Il y a des incohérences. Il y a des fois des familles. Mais alors des fois, je dis ce que j'ai à dire, ils reviennent pas. Des fois, ils sont pas contents de ce que je raconte.
C'est un peu la panique que j'évoquais tout à l'heure de Monica Del Cassuto, ou la cacophonie. On parlait d'interdit, mais ce qui est intéressant, c'est que même dans la culture jeune, pour ne pas dire adolescente de l'alimentation, il y a des règles qui s'énoncent. Par exemple, on ne mange pas de ketchup avec son grec.
Je ne sais pas d'où ça sort. Moi-même, je défends corps et âme cette règle, mais je ne sais pas d'où ça sort. On ne prend pas ketchup. Si tu prends ketchup au grec, t'es la personne qui vraiment il connaît rien quoi en fait.
Faire maillot.
Tout le reste en fait.
Mais alors j'ai lu, ça m'a fait penser à ça. Enfin, j'ai lu un article très intéressant sur la mayonnaise aux États-Unis et la génération des millennials dont vous faites encore partie, hein, Clément Romier, puisque vous avez 20 ans, et que ces jeunes en fait se détournaient de la mayonnaise qui est symbolisée un peu l'alimentation à l'ancienne, les vieux fast-food où ils ne vont plus, et masquaient le goût des aliments en l'uniformisant. Et aujourd'hui, les sauces plus populaires pour les jeunes sont plus typées, elles ont plus, elles portent en elles des origines géographiques. Ça va être le chimichurri qui est latino-américain ou de sauce asiatique, par exemple. Je vous renverrai à l'article également sur le site. Et là aussi, comme souvent avec l'alimentation, on va dans le détail. Et finalement, ce qui semblait être une culture comme ça de jeunes finit par se sophistiquer.
En fait, ce que je vois, ce que je peux dire sur les sauces que vous avez citées, effectivement, ça me parle. Et si on le rapporte aux adolescents, c'est que globalement, le discours qu'eux vont porter dessus et celui que vont porter les autres maillons de la société ou les scientifiques sera pas le même, ça c'est sûr. Ou en tout cas, ceux qui les observent. Sophistication, j'ai pas l'impression. Ce que je vois, en tout cas, chez ces adolescents, c'est qu'il y a aussi... Il y avait aussi une justification. Alors par contre, là où on diverge un peu, Clément, c'est qu'à un moment, tu as dit, c'est peut-être pas une question de goût, l'histoire du ketchup avec le kebab, etc. Ouais. Moi, je crois qu'en fait, au contraire, il faut pas sous-estimer tous ces goûts qui se créent avec des aliments que l'on teste finalement et qui deviennent un peu emblématiques d'une génération. Parce qu'il y a globalement, il y a des traits de gastronomie adolescente. Et quand je dis gastronomie, c'est vraiment au sens, parce que c'est un mot qu'on utilise toujours avec un côté extrêmement noble et qu'on croit réservé à certaines personnes, à certains lieux, à certains aliments. Et là, je suis pas tellement d'accord, parce que je pense que le kebab, c'est une gastronomie adolescente qui est hyper intéressante. Les sauces que vous avez citées, elles participent à ça, et elles participent aussi à, par contre, quelque chose qui, je pense, est extrêmement contemporain et qui naît encore plus avec les réseaux sociaux, qui est l'ouverture, en fait, des adolescents, quel que soit leur lieu d'habitation, en fait, au monde. Et donc, ils vont réinterpréter, on va avoir une nourriture qui est extrêmement métissée, mais ce métissage-là, c'est pas grave, c'est quand même leur alimentation, et c'est quand même... Tu parlais du kebab qui était une habitude vraiment aujourd'hui, dans ce que tu décris, très française.
Je ne sais plus comment s'appelle la chercheuse qui a travaillé sur ça, mais c'est ce qu'elle appelle la glocalisation alimentaire. Donc un mélange de localisation, donc on va chercher à avoir un petit circuit local avec plus culturel, et de globalisation avec une uniformisation du truc. Le kebab français, ça n'a rien de turc, ça n'a rien d'allemand, ça n'a rien de maghrébin non plus, parce que ça n'a jamais été une bouffe traditionnelle au Maghreb, c'est vrai. C'est un espèce de boui-boui d'influence respective de plein de cultures qui a donné ce qu'on a en France et qui est unique en Europe. Ça n'existe nulle part ailleurs. Entre ça et un kebab allemand, mais ça n'a rien à voir, quoi.
Alors, c'est intéressant parce que nous, on a beaucoup travaillé en Alsace, dont à Strasbourg.
Ouais, là, ouais.
Et où il y avait déjà pas mal de kebabs, où le kebab était une nourriture qui était extrêmement intéressante parce que c'est pour moi une nourriture qui passe les frontières, mais les frontières entre ados. Et c'était effectivement la nourriture que tous pouvaient manger parce que les adolescents français aujourd'hui sont de cultures et d'origines diverses et variées et ils ont quand même envie et fort heureusement de manger ensemble. Et le kebab franchissait notamment la barrière du halal.
Ouais, bah, ça c'est souvent parce qu'on me disait oui, mais le McDo c'est pareil. Le McDo c'est pas pareil. Mmh. Quelqu'un qui est musulman et qui mange halal au McDo, il prend un wrap chèvre, il prend un truc végétarien ou il prend un filet au fish. Donc d'ailleurs la sauce du filet au fish, elle est dans presque tous les kebabs maintenant. En réminiscence un peu de.
Et toujours dans ce mouvement de syncrétisme alimentaire. Sur les mouvements aujourd'hui, qui ont parlé de changement, on a aussi parlé de cacophonie alimentaire. C'est vrai qu'il y a des modes, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, on parle beaucoup de véganisme, ou du moins, beaucoup de gens essayent d'être flexitariens s'ils n'arrivent pas à être végétariens, de diminuer la consommation de viande. C'est pourtant chez les jeunes qu'elle est la plus forte, cette consommation de viande. Peut-être à cause de cette consommation de fast-food et puis de plats tout préparés. Comment ça se retrouve dans les comportements d'aujourd'hui, Dominica Del Casuto?
Je crois que c'est important d'en parler parce que avant c'était que les filles qui se disaient j'aime pas la viande. On disait que c'était à cause du goût. Les filles, à partir de l'adolescence, elles aiment moins la viande, elles préfèrent les légumes, les laitages. Genre c'est plus pur. Enfin il y avait quand même des imaginaires, mais c'est fini ça.
Et des représentations. Et des représentations. Hein, attachées à la viande.
Enfin les garçons. Et alors quand on leur pose la question, alors j'ai effectivement des parents qui m'amènent des garçons qui veulent plus manger de viande. Alors, ça panique tout le monde. Est-ce qu'il va grandir bien? Est-ce qu'il va avoir assez de force? Parce que quand même l'imaginaire de la viande c'est la force hein, quand même hein, pour un garçon. Est-ce qu'il fait du sport. Alors, c'est souvent des très sportifs, donc ils sont très intéressés par ce qu'ils mangent. Donc,
Il y a aussi des préoccupations éthiques.
Alors, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les parents pensent que c'est, ça ne va pas. Et quand on interroge le jeune, c'est souvent plus par éthique que par goût. Donc, la fille, ça va peut-être être par goût. Et le garçon, et encore, c'est un peu fini. Je pense que c'est un peu fini cet imaginaire. Je crois que on avance dans le temps et que la parité adolescente, elle existe de plus en plus. Les filles, comme on disait tout à l'heure, elles mangent pareil, elles veulent manger la même chose. Et des fois, c'est délétère par rapport à leur corps parce qu'elles ont peut-être pas besoin d'autant. Moi, je dis souvent, si t'es avec tes copains de 17 ans qui mangent beaucoup et que toi t'as 12 ans, 13, 14 ans et que ta puberté, t'es déjà tout à fait ta croissance, c'est pas la peine de te forcer à manger pareil. Enfin, mais elles se forcent pas physiquement, elles s'en rendent pas compte. Mais
l'idée, c'est aussi de se chercher trouver le mangeur ou la mangeuse.
Absolument,
que l'on chercher ses limites, quoi.
Absolument, c'est tout à fait ça. Mais donc, aider ces enfants, ces jeunes garçons, filles, mais garçons à connaître les équivalences. Donc, j'ai un chapitre entier là-dessus, et ça, c'est hyper important de donner aux parents la possibilité, et puis de leur dire, mais allez,
de manger équilibré
sans manger de viande, allez, d'apprendre à faire du tofu, des lentilles. C'est bon pour toute la famille, d'ailleurs, de temps en temps, de pas manger de viande, d'avoir aussi dans son frigidaire des équivalences, parce que on a le droit d'être végétarien, mais il faut s'en donner les moyens.
Quand même, heureusement.
Véronique, il faut s'en donner les moyens.
Est-ce que ces questions éthiques vont faire partie de vos recherches futures sur l'alimentation des adolescents?
Alors, sans doute si on se met à retravailler dessus, mais par contre, actuellement, je travaille sur ces sujets-là, justement. Mm-hmm. Plutôt sur le végétarisme, l'éthique, le véganisme, etc. En fait, je pense qu'il faut aussi un petit peu recentrer. En France, aujourd'hui, il y a moins de 1% de véganes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dernier chiffre du CREDOC montre, alors qu'effectivement, les jeunes générations ont un discours éthique, etc., montre que finalement, ce sont les 15-25 ans qui consomment le plus de viande aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce sont des viandes transformées ou des viandes qui passent dans les kebabs, dans les burgers, dans autre chose. Et alors en fait, finalement, c'est intéressant quand même. Ce sont des viandes qui ne ressemblent pas forcément aux viandes classiques, traditionnelles, et on ne voit plus les animaux quelque part dans ces morceaux de viande-là. N'empêche qu'ils continuent, ces chiffres m'ont énormément surpris, parce qu'on s'attendait justement à une baisse de consommation sur cette catégorie d'âge. Et c'est la catégorie d'âge aujourd'hui où ça monte et qui en consomme le plus. Donc déjà, ça c'est un point. Et ensuite... c'est pas une marotte chez moi, mais c'est vrai que j'aime bien relativiser certaines choses, notamment attention au public que l'on reçoit, par exemple, parce que je pense que là il y a une vraie vraie différenciation entre Paris et d'autres villes en France sur le rapport, notamment aux alimentations sans ou au véganisme, etc. Il faut quand même relativiser. Par contre, effectivement, il y a quand même un point qui dans cette génération de 15-20 ans aujourd'hui, mais notamment même à partir des plus jeunes, même chez les 12 ans, il y a quand même une ouverture et un rapport au monde qui a complètement changé, qui a complètement été bouleversé. Et donc forcément, des questions qui nous semblaient beaucoup plus intellectualisées dans les générations précédentes et donc qui arrivaient beaucoup plus tard, sont aujourd'hui immédiatement traduites, et donc des questions sur l'environnement, des questions éthiques, etc. Donc oui, ça les intéresse. Par contre, attention encore une fois, il y a une différence entre des discours ou des approches du monde ou des visions du monde et la pratique, parce que on l'a vu, en fait, quand on a des chiffres de consommation, les chiffres ne suivent pas forcément. Par contre, effectivement, les adolescents se posent des questions sur l'alimentation carnée, notamment.
C'est intéressant, il y a des pratiques adolescentes qui pénètrent la société et une réflexion intellectuelle qui ruisselle, pour le coup, jusqu'aux adolescents et aux enfants. Mm-hmm. Il y a quand même un endroit dont il faut qu'on parle, c'est la cantine, puisque la cantine, c'est un lieu qui est énormément fréquenté par à la fois les enfants, les adolescents et puis les enseignants. Je dis ça parce que c'est un enseignant, Benjamin Rondeau, qui a composé ce livre de photos qui s'appelle « Self-Service, une vie de demi-pensionnaire ». Et c'est un formidable document qui est sorti l'année dernière avec des photos de plateaux, de self-service à l'école, et qui dit c'est très intéressant. Il fait le lien entre ce qu'il mange à la cantine et puis l'idée de patrimoine qui transpire à travers ces plateaux de cantine. Et il parle, vous savez, ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, puisque le repas français en fait partie. Il s'agit du repas avec une entrée, un plat, un dessert, manger en collectivité. Comment on vous parle, à vous, de la cantine, Dominique Adèle Cassuto ?
Alors, ils aiment pas la cantine. C'est de bon ton de pas aimer la cantine, c'est ça. Hein, toutes les façons. Je crois qu'à partir de la troisième, c'est foutu, quoi. Ils peuvent plus, quoi. Parce que quand t'as été à la cantine à partir de la crèche, troisième, seconde, on n'en veut plus. Alors ça, c'est peut-être une vision parisienne. Hein, attention, hein, parce que peut-être que dans les villes où on habite loin de chez soi, etc. Donc, mais c'est vrai que quand on les interroge bien, ils disent pas à leurs parents qu'ils y mangent rien et du coup, ils ont très faim à 4 heures. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, qu'il y a des goûters énormes. Mais des fois, ils savent qu'ils auront un gros goûter et donc ils mangent rien. Et ils aiment bien être avec leurs copains. Alors, les petits ados, ils aiment pas qu'on les enlève de la cantine parce qu'ils aiment bien être avec leurs copains, mais ils mangent pas beaucoup. Et c'est le discours que j'entends moi. Alors après, peut-être que j'ai un discours, peut-être que les garçons, les filles, c'est peut-être un petit peu différent. Je pense que les garçons mangent un peu plus.
En tant que médecin, et pour réfléchir globalement à comment les enfants et les jeunes s'alimentent, vous ne vous inquiétez pas du fait que tant d'ados ne s'alimentent pas convenablement à l'heure du déjeuner?
Vous savez ce que c'est la principale remontrance qu'ils donnent? C'est ils n'ont pas le temps. En fait, ce qui va pas à la cantine, il y a ce qu'on leur donne. Alors, en général, alors moi, j'ai fait un petit effort, etc. Bon, ça, on peut un peu leur dire, tu vois, t'as très faim à 4 heures, mais c'est parce que tu manges pas assez à midi, etc. Mais souvent, et j'avais vécu ça avec ma fille aussi, elle était régulièrement en retard au cours de 2 heures parce que elle me disait, mais je me veux pas manger à la cantine parce que je serai en retard. Il y a pas le temps. Les cantines sont bourrées. Et puis, il y a aussi le bruit. Donc, c'est pas agréable. Donc, là, je fais une généralité. Il y a sûrement des endroits où c'est très bien. Quand il y a un vrai cuisinier, quand ils savent, les dames de cantine, quand elles sont là, quand elles sont un peu sympathiques, etc. Mais c'est compliqué. La cantine, c'est pas forcément ce qu'on leur donne. C'est aussi qu'ils ont pas le temps. Ça va pas. Ils peuvent pas parce que s'ils sont les plus âgés, ils se passent en dernier. Donc du coup, ils sont en retard au cours d'après. Quand ils ont eu 5 billets de retard à l'heure de 3 heures. Enfin, je sais pas. Vous avez 20 ans, donc ça doit vous.
Un témoignage. J'étais dans le privé catholique à Rueil-Malmaison, donc un lycée de bonne qualité, disons. Mais la cantine, je rigole même pas avec vous. C'était immangeable.
Voilà.
Et par ailleurs, à propos de cette histoire de pas de temps de bruit, et c'est surtout, et vous n'en avez pas parlé, c'est une institution du harcèlement scolaire, la cantine. C'est le pire endroit, je pense, pour les personnes qui en sont victimes, et je sais plus quels sont les chiffres, c'est 15 à 20%, je crois. Mais c'est la cantine, c'est le pire endroit parce que là, tu te fais renverser ton plateau, tu te fais pousser dans la queue, etc.
Bon, donc, voilà,
j'ai rencontré des gens qui avaient peur.
Troisième seconde, on commence à demander de l'argent pour manger dehors. Hein, et donc, le kebab, ouais, il commence à
merci
seconde,
le kebab, du coup.
Oui, sûrement.
C'est une nutritionniste qui le dit. Ouais, Véronique Pardo, sur cette question de la restauration collective, de la cantine, du temps et du manger ensemble.
Je suis en partie d'accord, dans le sens où à la cantine, c'est le lieu où il faut être comme tout le monde. C'est-à-dire que pour être à l'aise, il faut s'insérer tellement complètement dans le groupe. En termes, il ne faut pas se différencier, parce que ceux qui se différencient d'une façon ou d'une autre se sentent très mal à la cantine, se sentent soit exclus. Je parle notamment, nous on avait eu pas mal d'adolescents, notamment des adolescents qui sont soit en situation de fragilité, soit qui sont obèses, étaient complètement stigmatisés. Et quand vous parlez d'un lieu de harcèlement, je vais un petit peu tempérer, mais par contre, c'est vrai que ces adolescents-là se sentent extrêmement mal en cantine scolaire parce que ils sont exclus, ils vont se retrouver à manger seuls dans un lieu où, par essence, on mange ensemble, et ça, c'est le pire, se retrouver tout seul face à son plateau. Par contre, je dois quand même dire que les premiers résultats d'Alimado en 2009, on a eu un public qui est venu au colloque qui était très différent des publics habituels pour des résultats d'études en anthropo, en sociaux, etc. C'est-à-dire, c'était formidable pour toute l'équipe. On était une équipe très jeune. Et en fait, c'était formidable pour nous parce que on a eu un public qui allait aussi bien du côté de la recherche que énormément de gens et de personnel des cantines qui se posaient des questions. Et il faut voir qu'il y a quand même en France énormément de responsables de cantine, de cuisiniers dans les cantines qui s'interrogent sur ça et qui essayent de trouver des solutions. Et on a vu des collèges pilotes, notamment avec des cantines, avec des cuisiniers qui essayent de faire des choses absolument extraordinaires pour rompre les exclusions, etc.
Ouais. Cuisiner sur place, ça, c'est sûrement la solution, mais c'est pas toujours possible dans les collectivités locales. Par exemple, un exemple important, c'est la viande en liaison froide, là, je sais pas quoi, là. C'est-à-dire que ça arrive froid, c'est réchauffé sur place, mais ils mangent pas, les enfants, ça. Ils mangent pas. Donc c'est simple. Moi, j'ai fait pendant des années, je faisais partie de la commission des repas de mon quartier, parce que je me disais, faisons un peu de social, allons dans faire ce que je sais faire, mais je m'arrachais les cheveux, parce que c'était très compliqué. Alors, il y a des parents qui veulent du bio, il y a des parents qui veulent pas de féculents, qui comprennent pas pourquoi je disais mais mettez des féculents à chaque repas, ils ont faim ces enfants-là. Ah mais non, c'est pas bien. Enfin, il y a aussi des imaginaires terribles en fait en termes de bon, la cantine, c'est un vrai sujet. Et par exemple pour les fruits, ils disent beaucoup qu'ils jettent les fruits, etc. Mais dès qu'ils ont mis en place dans certaines cantines des buffets de fruits avec des fruits épluchés, mais tous les enfants en mangent. Pour faire manger des fruits aux enfants, il faut les éplucher. Si vous épluchez, moi je dis toujours, comme dit, ne mange jamais de fruits. Mais vous avez déjà fait, vous épluchez, vous mettez dans un Tupperware des fruits, ils vont les manger. Les fruits, il n'y a que comme ça. Ils veulent pas se salir. Hein, ça, c'est toi qui m'avais sorti ça. Ça, c'est très important.
Dernier point, Véronique Pardo.
Sur l'idée, en fait, c'était l'idée du toucher. On est allé peu finement sur les sensations, en fait, dans notre étude. Et ce qu'on trouvait intéressant, ce qu'on a trouvé, c'était effectivement ce qui provoquait des dégoûts. Et dans les dégoûts, il y avait touché certains aliments qui dégoûtent. Et il y avait aussi les odeurs. Et les odeurs dans les cantines, plein d'ados, quand on a été très en confiance avec eux. Les ados sont revenus là-dessus.
Dès qu'on entre dans l'école, ça commence à sentir
le chou-fleur.
Et donc, on a eu des tas de verbatims sur les odeurs, aussi bien des aliments d'ailleurs, et... parce que je ne veux pas non plus faire d'angélisme, entre eux, parfois, ce n'était pas sympa. Et ils parlaient souvent aussi des odeurs corporelles, des odeurs des corps qui mangent, qui s'assiedent, qui reviennent du sport, etc. Et tout ça mis ensemble dans un bâtiment fermé. Et donc, le mélange des odeurs et des dégoûts, et donc faisait qu'effectivement, il y avait certains aliments, ils n'allaient pas vers eux, parce que ça mélangeait tout ce qui finalement les rebutait.
Goût et dégoût des adolescents à la cantine et ailleurs, pas seulement au kebab, on l'a entendu. Merci Clément Romieux, merci Dominique Adel Cassuto, Véronique Pardo, merci également toutes les références des ouvrages cités évidemment sur le site de France Culture à la page d'Être et Savoir. On passe à la leçon de choses. Et comme on l'a dit, s'ouvre demain la semaine du goût dans les écoles. Sophie Bobert a interviewé un chef cuisinier, Bruno Doucet. Il a choisi de nous parler d'un sujet très original pour être, à savoir, on n'en avait jamais parlé, la chasse. Il est revenu, voilà, sur son enfance de chasseur.
Tous les week-ends, on allait à la chasse à mes grands-parents, en période de chasse. Et mais la première fois où je me souviens de cette chasse, c'est à côté de Tours, c'est pas Sainte-Marie-de-Touraine, c'est à Franqueuil, c'est un tout petit village qui est à côté d'Azelfrid. Non, pas d'Azé-sur-Cher, pardon. Voilà, c'est sur la vallée de l'Indre. C'est entre la vallée de l'Indre et la vallée du Cher, mais c'est à côté de Tours. Hein, et voilà, et je me souviens, on allait chez des amis de mes parents qui s'appelaient Monsieur et Mme Godot. Et c'était des terres, et voilà, il y avait des bois, il y avait des chaumes, des champs de chaumes. Et c'était légèrement vallonné. Enfin, attention, c'est la Touraine, hein, on parle pas de la Haute-Savoie non plus. Mais voilà, donc je me souviens de ces images. Je me souviens du temps un peu gris, froid, qui est le temps souvent automnal, en période de chasse. Et je me souviens du premier chien qu'on avait qui s'appelait Chucky, qui écoutait rien. Ça, je le dis, c'est dans mon livre, qui écoutait rien. Et oui, voilà, c'est les souvenirs de cette ère, c'est pas forcément de cette ère, mais c'était de ces moments.
Et qu'est-ce que signifie cette phrase, Bruno Doucet, je vous cite, c'était une chasse devant soi, au cul levé.
Ah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de... Moi, le premier, enfin, j'y vais pas beaucoup, mais j'y vais un petit peu. On chasse beaucoup en battue, donc c'est-à-dire que vous êtes posté, vous bougez pas, et puis il y a des gens qui rabattent les animaux. Donc ça, c'est sur le... Là, c'était vraiment une chasse au cul levé. Donc au cul levé, c'est-à-dire que vous marchez avec votre chien devant, et quand votre chien se met à l'arrêt ou lève un gibier, c'est le moment de savoir si on le prélève ou pas. Ça s'appelle la chasse au cul levé.
Ça vous plaisait, ça vous faisait pas peur, hein.
Ah non, Pierre, c'est vraiment une des chasses qu'on peut pratiquer tout seul, encore aujourd'hui. Et c'est vraiment une cohésion, une communion avec le chien, donc c'est plutôt sympa. Mmh. Plutôt sympa. On chasse comme ça la bécasse, on peut chasser comme ça le lièvre ou le perdreau, mais c'est vraiment très sympa.
Ça vous faisait pas peur, enfant?
Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait me faire peur? Vous parlez de la vue d'une arme à feu? Non. Après, on est des gens responsables, des chasseurs en général. Et après, il y a toujours des gens qui font un peu moins bien. Mais non, mon père m'a toujours appris. Enfin voilà. Alors déjà, moi, je portais pas de fusil à l'époque, hein, parce que j'avais pas le droit de chasse. Voilà. Mais j'étais toujours derrière mon père. Et surtout, moi, mon père m'a toujours dit. Enfin, je me souviens après. Moi, j'ai fait beaucoup de baltrap ou de choses comme ça où on manie des armes à feu. Mais avec mon père toujours derrière moi, en me disant attention, c'est pas des cannes à pêche qu'on manie.
Vous avez aussi en mémoire, Bruno Doucet, cette autre image. Vous en parlez dans votre livre Gibier. Ce sont les dimanches, hein, les grandes tablées familiales, ouais. À 15 au moins, dites-vous.
Ouais, tout à fait.
Autour de la table.
Ouais, chez mes grands-parents. Alors ça, c'est les chats, c'est un peu plus. Enfin, je m'en souviens un peu plus parce que ouais, j'étais un peu plus vieux, je pense. Mais chez mes grands-parents, effectivement, à partir de septembre jusqu'à Noël, on était tous les week-ends chez mes grands-parents et on chassait le matin. Et alors moi, j'accompagnais pas mon père tous les dimanches, mais enfin, à la chasse. Mais on était chez ma grand-mère et on se retrouvait à une 12-15 à table avec j'avais mes oncles qui étaient là, il y avait des gens qui chassaient, des gens qui chassaient pas, mais c'était un repas familial de dominical tous les dimanches. Ouais.
Y a-t-il un goût qui reste, hein, de votre enfance, hein, Bruno Doucet?
Ouais, il y a un goût que j'ai toujours mais que j'arrive pas à reproduire. C'est les tomates farcies de ma grand-mère. Elle faisait un truc avec sans viande, elle farcissait des tomates avec de la mie de pain, des herbes. Et elle les faisait cuire, je sais pas comment, mais j'arrive pas à retrouver.
Vous avez essayé?
J'ai essayé. Alors, on se rapproche, mais voilà. Mais je pense que peut-être qu'il y a aussi l'endroit, il y a peut-être aussi la tomate que ma grand-mère faisait, mmh. Et peut-être que j'arriverai pas à les refaire exactement.
Ça les a étonnés, hein, que vous deveniez chef, hein, cuisinier?
Je sais pas si ça les a étonnés, parce que ça, c'est plus à eux qu'il faudrait poser la question. Une chose dont je suis sûr, c'est que je sais que mes parents sont très fiers de moi, donc ça c'est voilà. Et je sais surtout que c'est grâce à eux si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. J'aime pas le dire, mais je dis toujours à mes parents, enfin du moins à mon papa, qu'ils ont été un peu des anti-modèles pour moi. Ça a été des bons modèles, mais surtout des anti-modèles. C'est que eux ont fait des métiers qui leur plaisaient pas du tout. Et je les ai vus partir au travail, enfin pas ma maman, mais mon papa. Je les voyais partir à reculons tous les matins au boulot, et je me suis dit ça, je veux jamais vivre ça. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je peux dire que je vais au travail avec plaisir, toujours. Et le jour où j'irai plus au travail avec plaisir, j'arrêterai.
Et le beau livre Gibier, donc le livre de Bruno Doucet, vient de paraître aux éditions La Martinière. J'ajoute que bon, on a tous le même problème avec les tomates farcies et on est quand même la seule émission où on parle à la fois de véganisme et de chasse pour cette émission donc consacrée à l'alimentation. Vous retrouvez Être et Savoir la semaine prochaine à 17h sur France Culture ou un peu quand vous voulez en podcast. Je remercie toute l'équipe Somanina qui réalise cette émission, Avril Ventura dont l'aide est très précieuse pour la préparer et Jean-Guy Lamèche qui était à la prise de son aujourd'hui. Bonne soirée à tous.